Onde Femmes, Radio Zone 93.8.
Die Philosophie der Damen soll kurz, klar und elegant sein.
La philosophie des dames doit être courte, claire et élégante. Remue-ménage.
Onde Femmes. Femmes, c'est sur Radio Zone 93.8 et c'est tous les mercredis. Bonsoir et bienvenue dans Remue Ménage, Radio Zone 93.8. Et nous nous retrouvons, comme tous les mercredis, de 17h à 18h30, suivi ensuite des informels de Radio Pleine Lune. Aujourd'hui, eh bien, quel programme au menu? Tout d'abord, ce que j'appelle notre rubrique Planète Femme, c'est-à-dire un petit peu tous les articles et les nouvelles intéressantes accumulées en lisant les journaux, les magazines, sujets concernant les femmes. Rubrique que je parcours pour vous à peu près une fois par mois. Et puis en deuxième partie d'émission, eh bien, pour remplacer notre émission avec nos amis de l'Inédit, que nous n'avons pas pu faire ce mois, eh bien, je vous propose de découvrir la publication d'un livre en français d'Anne-Marie Schwarzenbach, cette écrivaine suisse-allemande, qu'elle a écrit il y a un certain temps déjà, mais qui n'avait jamais été traduit en français, Orient Exil, publié aux éditions Autrement. Ça, c'est donc pour la deuxième partie de notre émission. Mais tout de suite, découvrir comme d'habitude dans Onde Femmes de la musique de femmes, de la musique écrite par des femmes, chantée et interprétée par des femmes. Et tout de suite, c'est la chanteuse islandaise Björk. Je ne suis pas sûre que ça se prononce de cette façon-là. Björk est bien islandaise. Elle chantait, et on pourrait dire, certains diraient, elle hurlait, dans un groupe qui s'appelait les Sugar Cubes. Et donc, elle n'est pas particulièrement inconnue des gens qui se sont plutôt plus à écouter du rock. Donc, l'album, son premier album en solo qu'elle a enregistré, qui s'appelle Début, qui contient 11 chansons, devrait mettre un petit peu tout le monde d'accord, que ce soit les critiques du vieux rock comme les adeptes de tous les rythmes qui se dansent un petit peu. Alors, cet album, dit-elle, c'est ce que j'ai toujours aimé, c'est quelque chose qui a mûri en moi depuis que je suis gamine et qui s'est construit autour de petites histoires de la vie de tous les jours. Une sorte de recherche d'authenticité qui a même poussé Björk à se réfugier dans les toilettes du Milk Bar de Londres pour enregistrer le titre qui a pour titre « There is more to life than this », il y a mieux à vivre que ça. Et même un peu plus loin, elle a utilisé les cris de son bébé pour introduire une musique, une chanson qui a pour titre « One day, un jour ». Elle s'est installée à Londres pour créer ce petit joyeux très égoïste, comme elle le dit elle-même. Et ensuite, elle a continué à enregistrer, puisque face à l'accueil enthousiaste du public pour ce premier disque, eh bien, elle vient d'enregistrer toute une série de duos qu'elle a fait, qu'elle a appelé Björk Affairs, une série de duos avec des chanteurs connus comme Omar et Mick Hucknall de Simply Red. Alors tout de suite, eh bien, commençons par les cris du bébé et la chanson One Day.
One day it will all come true.
touching feeling.
C'est la chanteuse islandaise Björk qui nous accompagnera dans cette planète femme. Planète femme, je vous rappelle, c'est notre rubrique mensuelle où je parcours pour vous tous les articles que j'ai accumulés au gré de mes lectures et qui nous intéressent, à mon avis, qu'il est bon de ressortir de temps en temps. Alors, par exemple, cet article qui évoque le travail nocturne des femmes. Et c'est un article qui est publié au lendemain du 49e congrès de l'Union syndicale suisse et qui a été notamment confronté à la révision de la loi sur le travail et au projet d'abolition de l'interdiction du travail de nuit des femmes. On sait que c'est chose faite aujourd'hui. Et pourtant, une enquête qui avait été réalisée en Italie par Laura Corradi. Laura Corradi qui a écrit une recherche qui s'appelle « Il tempo rovesciato ». Le quotidien des femmes et le travail nocturne, le temps renversé quotidien des femmes et travail nocturne chez Barilia, c'est là où elle a fait son enquête, en 1991. Eh bien, cette enquête qui malheureusement n'existe pas traduite en français a pourtant le mérite de donner sur le sujet du travail nocturne des femmes la parole aux ouvrières directement intéressées. Et peut-être qu'il aurait été intéressant de faire connaître cette recherche au moment où une décision devait être prise en Suisse. Alors je vous donne des extraits de cette enquête. En décembre 1991, la Commission des communautés européennes a demandé aux États membres de dénoncer la Convention 89 de l'Organisation internationale du travail, OIT, interdisant le travail de nuit des femmes, au nom du droit communautaire relatif à l'égalité de traitement entre hommes et femmes sur le marché du travail. Les États concernés se sont exécutés avec empressement et le Conseil fédéral s'est associé à ce mouvement. Il a ainsi créé les conditions pour la révision de la loi sur le travail. Les discours simplificateurs, sans lien avec les pratiques dans les entreprises, ont banalisé le débat sur le travail de nuit des femmes et les pièges étaient très nombreux. Ainsi, le travail de nuit entrerait dans le champ de la modernisation négociée, je cite, où se situe la modernité dans l'exigence de plier la force de travail aux impératifs de l'utilisation la plus rentable possible des machines. Question qu'on peut évidemment se poser. De quelle négociation s'agit-il lorsque le travail de nuit est présenté comme la condition chantage du maintien des emplois? Ou encore, le travail de nuit des femmes faciliterait une égalité sur le marché du travail. Mais comment faire l'impasse sur la division sexuelle du travail global qui dépasse largement la division des tâches dans la sphère du travail salarié? Comment ignorer la lecture sexuée du temps et de la maîtrise des espaces qui démontre que le travail de nuit peut avoir des conséquences très différentes selon que le travailleur est un homme ou une femme? Alors Laura Corradi a travaillé dans l'usine Barilia qui a fait l'objet de sa recherche. C'est une entreprise de taille moyenne, entre 200 et 300 employés, située dans le nord de l'Italie. Donc on y produit des brioches emballées sous cellophane destinées à des réseaux de grande distribution. En 1987, cette entreprise a été rachetée par la plus grande entreprise qui a pour nom Barilia, le grand dominant du secteur de cette production-là en Italie. Barilia a tiré profit des menaces pesant sur l'emploi pour arracher un accord prévoyant l'introduction du travail de nuit pour l'ensemble des travailleuses et travailleurs de l'entreprise. La production est passée de 2 à 3 équipes. Le samedi a cessé d'être un jour férié fixe. Aucune compensation n'a été obtenue au plan de la durée hebdomadaire du travail ou des congés. Et l'enquête met en évidence comment le temps de travail de nuit est perçu diversement du temps ordinaire du travail. C'est un temps long et insupportable au cours duquel on regarde sans arrêt sa montre. Une des ouvrières dit « Quand je fais la nuit, j'ai toujours l'obsession que si je ne dors pas l'après-midi, alors je ne réussis pas à tenir le coup. » Une autre dit « Quand je fais la nuit, c'est une semaine qui n'existe pas ou je n'existe pas dans la pratique. » Les ouvrières interrogées souffrent à des degrés divers des pathologies identifiées par la médecine comme des conséquences du travail de nuit. Insomnie, troubles digestifs, troubles intestinaux, difficultés de concentration, etc. Elles souffrent également d'un mal-être irréductible à l'ensemble de ces pathologies. Les jours d'absence ont été multipliés par 3, la consommation de tranquillisants est devenue quelque chose de normal. Une des composantes importantes de ce mal-être se découvre dans l'analyse des activités domestiques. Même si les maris sont compréhensifs, le fardeau du travail domestique n'a guère été allégé. La perte du samedi comme jour de congé conduit à ce que le jour de remplacement est souvent dévoré par le travail ménager réalisé seul. Mais le temps passé à la maison, ce sont aussi des rapports qui deviennent plus difficiles, plus tendus. La plupart des femmes interrogées se sentent coupables pour leur irrégularité, pour le temps chichement pesé qu'elles peuvent accorder à leurs enfants. Et en ce qui concerne les liens sociaux, le travail nocturne représente bien sûr un obstacle important aggravé par le travail du samedi. La plupart des ouvrières fréquentent moins leurs amis ou amies. Laura Corradi s'interroge sur un paradoxe. Malgré toutes les contraintes qui pèsent sur le temps, près de 20% des ouvrières ont répondu oui à la question « T'arrive-t-il de ne pas savoir comment occuper ton temps libre ?» À côté d'explications évidentes, comme la perte d'autonomie dans la gestion du temps et les obstacles pratiques, il y a un sentiment plus général de chronicité de la fatigue. Comment s'en sortir ? Eh bien, 2 données dominent nettement les réponses des ouvrières. Le refus du travail de nuit, aucune ne propose de le maintenir, et la volonté d'une diminution significative du temps de travail qui ne passe pas par une suggestion encore plus grande aux impératifs de la production. Ces revendications sont en contradiction avec la course à la compétitivité des entreprises, bien évidemment, et sont de ce point de vue complètement déraisonnables, du point de vue des patrons, bien évidemment. Mais cette déraison ouvrière pourrait rendre possible un autre regard sur les paradoxes de notre système économique, où le temps envahi et contraint des uns est compatible avec l'exclusion des millions d'autres de toute forme de travail socialement reconnue, où des marchandises s'accumulent vertigineusement tandis que d'autres besoins non négociables sur le marché restent désespérément sans réponse.
Thank you. is my home.
Chanteuse islandaise Björk qui nous accompagne dans notre revue La Planète Femme. Toujours dans le monde du travail, une exposition qui vous intéressera certainement, qui a pour titre Ni bonne ni nonne. De qui parlons-nous ? Eh bien, il s'agit de l'infirmière. Peut-être l'aurez-vous deviné. Et l'exposition Ni bonne ni nonne a lieu au Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge à l'avenue de la Paix à Genève. Ça dure encore longtemps, vous avez le temps, puisque cette exposition sera ouverte jusqu'au 21 juillet, tous les jours de 10h à 17h, sauf le mardi. Mais ce qu'on en dit aujourd'hui à propos du rôle de l'infirmière nous intéresse au plus haut point. Alors l'infirmière, bien sûr, incarne toujours et encore un certain idéal humanitaire. Et l'exposition « Ni bonne ni nonne » au musée de la Croix-Rouge nous montre ce que représentent les infirmières du monde de 1900 à 1930 et sont bien sûr célébrées en de nombreuses images. Alors, cette exposition rend bien sûr hommage à une profession en mal d'identité, celle d'infirmière, qui, comme son nom ne l'indique pas, concerne aussi parfois les hommes, mais c'est vrai, c'est plutôt rare. Et c'est que l'actuelle mixité de cette profession, qui, comme je viens de le dire, est très très relative, participe en fait un petit peu à l'érosion d'un mythe souvent très tenace et forgé dans les années 1900-1930, qui est que l'infirmière est une chose complètement dévouée et est la femme incarnée. Or, qu'est-ce donc que la femme ? Eh bien, pour le conservateur du musée de la Croix-Rouge, Jean-Pierre Gaume, elle est, il reste encore un élément majeur de l'idéal humanitaire. Au début du siècle, le rôle des infirmières se laïcise. Il exige des connaissances, toujours plus scientifiques. Pourtant, les dames en blanc vont donner naissance à une imagerie exaltée et non dénuée parfois de mièvrerie. Sollicités, 25 pays ont mis à disposition du musée des affiches, des dessins ou des cartes postales d'époque représentant l'infirmière dans tous ses états. Une riche collection qui, peu à peu, dévoile le contour de ce fameux mythe. Toujours, elle sera belle, le regard inspiré, la virginité provocante ou patriotique, à moins qu'elle ne s'oublie dans le renoncement et la foi. Elle rassure, elle guérit, elle materne, elle est russe, suisse ou américaine. En tout cas, elle est universelle et universellement dépositaire du sentiment d'humanité. Alors, c'est donc un choix thématique qui a guidé les concepteurs de l'exposition du Musée international de la Croix-Rouge dans la présentation des images que l'on vous propose dans cette exposition « Ni bonne ni nonne ». Alors, vous rencontrerez ainsi tout au long de l'expo des formes de motivation qui poussèrent tant les jeunes filles à embrasser cette dangereuse carrière. Et oui, quelques 1000 infirmières ont été tuées du côté allié, par exemple, durant la Première Guerre mondiale. Et plus loin, vous découvrirez les utilisations politiques ou commerciales du mythe de l'infirmière, la propagande nationale aux réclames pour un liqueur, cet autre remontant du soldat blessé. Tant d'engouement ne pouvait laisser les caricaturistes, bien sûr, indifférents. Alors, l'humour et la satire garnissent plusieurs vitrines, notamment une série de lithographies françaises de 1916 intitulée « Une journée à l'hôpital ». Alors, est-ce le fruit du hasard ? Mais l'auteur de ces planches sans concession était une femme. Enfin, la promenade s'achève par l'évocation de la dure réalité du champ de bataille. On saluera bien sûr la première infirmière, Florence Nightingale, l'héroïne de la guerre de Crimée, mais aussi les multiples infirmières inconnues auxquelles l'exposition dresse un clin d'œil photographique. À l'heure où Médecins sans frontières dénonce une fois de plus le laisser-faire des gouvernements face aux horreurs de la guerre et souligne avec véhémence que l'aide humanitaire s'en sont pendant politique et dénuée de sens, eh bien visiter l'exposition du Musée international de la Croix-Rouge laisse un petit peu songeur. D'où vient cette volonté désespérée de se raccrocher à une image, de projeter dans un mythe fait de ce dévouement et de vocation humanitaire ce qui devrait être la paix retrouvée? Alors, comme le précise Jean-Pierre Gaume, le rétrospectif permet le prospectif, c'est une citation. Et dans cette perspective, le musée organisera un débat en avril prochain sur le thème « Le XXIe siècle aura-t-il encore besoin d'infirmières ?» L'annonce, bien sûr, ne dit pas s'il s'agit de la femme, de la profession ou du mythe.
This island, I could bring my little ghetto blaster. There's more to life than this. But then we'd have to rush back to the town's best baker to get the first bread of the morning. There's more to life than this.
L'aurez-vous reconnu, c'est la chanson enregistrée par Björk dans les toilettes du Milk Bar à Londres. Voilà. Et le troisième article que j'avais envie de vous lire concerne un article concernant le Japon. Et le titre de cet article, c'est « Le pays où l'avortement remplace légalement la pilule interdite ». En effet, dans tout le pays se sont multipliés ce que l'on pourrait appeler des cimetières pour rendre hommage aux enfants jamais nés et qui sont figurés par des statuettes en pierre de bébés joufflus et ventrus que les femmes, très silencieusement et parfois clandestinement, viennent fleurir, viennent entourer d'une bavette. Et j'ai sous les yeux une image avec des dizaines et des dizaines de ces petites statuettes avec leur bavette rose et une fleur rose, une femme recueillie devant l'une d'entre elles. Au Japon aujourd'hui, l'avortement est autorisé jusqu'à 22 semaines de grossesse, mais la pilule est illégale. Alors par exemple, dans l'étrange cimetière qui se trouve à quelques 120 km de Tokyo, il n'y a pas bien sûr ni tombe ni sépulture, mais les travées, parmi lesquelles, comme je viens de vous les décrire, sont parsemées de ces dizaines de milliers de statuettes joufflues au regard mélancolique que l'on appelle Jizo. Et ces statuettes, les femmes viennent offrir pudiquement à l'âme de cette statuette, qui est une sorte de génie un peu passe-partout dans la mythologie bouddhiste, qui sert de divinité au fœtus. Et c'est auprès d'eux que de nombreuses japonaises viennent se recueillir en secret. Alors ce cimetière est loin d'être unique au Japon. Depuis la loi eugénique de 1948 qui légalise l'avortement, les Jizo, représentation posthume donc des bébés ventrus, ont envahi le moindre recoin du pays. Ils trônent dans les temples les plus célèbres, se nichent dans les sous-bois ou en bordure de rizières, ont leur place au cœur des mégapoles. Quelques 3000 francs la statuette et une dizaine de francs d'entretien chaque jour. Le prix que les familles auraient payé pour l'éducation de leur enfant s'ils avaient vécu, estime sans rire le prêtre de Gano, le prêtre de ce cimetière étrange. Au Japon, avant-poste mondial du modernisme et de la technologie, dans l'image de tout un chacun, eh bien, la pilule contraceptive est aujourd'hui encore prohibée par les autorités et l'avortement y est de facto le deuxième moyen de contraception après le préservatif. Une Japonaise sur deux avorte légalement entre 2 et 4 fois dans sa vie, soit 450 000 interruptions de grossesse réalisées chaque année, plus que les 12 pays de la communauté européenne réunis. Encore s'agit-il d'une statistique officielle, les chiffres en fait seraient 2 à 3 fois plus élevés en raison du nombre considérable d'avortements que les médecins soucieux d'alléger leur feuille d'impôt ne déclarent pas. Et surtout, des femmes qui ne veulent pas ébruiter l'intervention. Parce que si l'IVG est légale, elle reste socialement illégitime au Japon. La pratiquer, oui, mais surtout, ne pas en parler. Il y a une sorte de mur du silence qu'on se doit de respecter sous peine d'être monté du doigt, dit Tanaka, qui s'est fait avorter il y a un an. On retrouve devant l'avortement la pesanteur d'une culture japonaise qui veut que tout entorse à une certaine éthique sociale soit masqué à tout prix, sous peine d'exclusion. Et Tanaka exhibe une petite annonce extraite d'un quotidien national qui dit ceci « La fureur des bébés jamais nés va s'abattre sur vous. Votre vie familiale et votre santé vont être dévastées. » Suit l'adresse d'un temple où, moyennement une généreuse poignée de yens, on peut échapper à ces calamités. Tant que la pilule ne sera pas rentrée dans les mœurs, poursuit Tanaka, nous resterons les victimes de cet ordre moral du début du siècle.